France Inter.
L'écrivain, président de l'Oulipo et ancien journaliste diplômé de mathématiques et d'astrophysique Hervé Le Tellier a étudié le journalisme et garde de cela un goût certain, même dans ses fictions, pour la documentation. Pilier de barre entre 91 et 2018 de l'ancienne émission des Papous dans la tête, animée par Françoise Tressard sur France Culture, ancien chroniqueur pour Le Monde et La Grosse Bertha, ancêtre de Charlie Hebdo, l'homme qui se trouve face à moi a également rédigé une thèse de linguistique intitulée « L'Oulipo, langage et esthétique de la complicité ». Il est, paraît-il, avec Marguerite Duras pour son livre « L'Amant », l'auteur qui a vendu le plus grand nombre d'exemplaires de son prix Goncourt. Pour lui, c'était il y a 4 ans sous le titre « L'Anomalie ». La pudeur et l'humour sont les boucles de ce connaisseur en spleen qui façonne des livres tous différents les uns des autres. Il vient de publier Le Nom sur le mur, une enquête littéraire sur un jeune résistant français mitraillé en 1944 et dont il a découvert le nom gravé sur le mur de crépi de sa maison située dans un village de la Drôme provençale où il vit une partie de l'année. André Chay lui indiquait le mur tout comme le monument aux morts du village. Hervé Le Tellier a recueilli des témoignages et hérité d'une petite boîte de ses effets personnels. Le livre parle du résistant et de l'écrivain pour dire, je cite ce dernier, ce qu'est le fascisme, le nazisme, la résistance, le courage également. Bonsoir et bienvenue dans Grand Canal.
France Inter, Grand Canal, Eva Bester.
Bonsoir Hervé Le Tellier.
Bonsoir.
En 97, dans Les amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable ou mille réponses à la question « à quoi tu penses ?», vous répondez mille fois à cette dernière question, ce qui est amusant car la première question de cette émission est la suivante. À quoi avez-vous le plus pensé aujourd'hui ? Et vous pouvez répondre autant de fois que vous le voulez.
Aujourd'hui, ce que j'ai pensé le plus.
Oui.
Aujourd'hui, j'ai travaillé avec un ami sur un projet et je me suis toujours demandé à chaque fois quelle est la scène suivante. Puisqu'on travaillait sur un scénario et c'était la principale question, et on se rend compte que tout est modulable. Et c'était le sujet même d'angoisse, même de savoir à quel moment il fallait s'arrêter de bouger les scènes.
Vous arrivez à achever, à savoir qu'une œuvre est achevée ou il y a une frustration ?
Non, il y a une frustration et les œuvres sont souvent abandonnées. C'est-à-dire que il y a une sorte d'idée qu'on se fait de l'œuvre, on n'y parviendra pas de toute façon. Et on doit, à un moment donné, se dire que ce moment où on est à un temps T est le moment auquel il faut s'arrêter de travailler. Et accepter de l'abandonner, justement. Ce qui est terrible, c'est qu'en relisant ces textes, quelques années plus tard, on a des regrets, mais qui sont jamais au même endroit. Donc c'est pas si grave, puisque à chaque fois on voudrait poursuivre, reprendre, etc. Parfois ça m'arrive d'ailleurs, lors de rééditions ou lors de traductions, de changer des petites choses.
Ça vous est déjà arrivé tout de même qu'une œuvre trouve grâce à vos yeux ?
Une œuvre des autres, très très souvent.
Ah oui, des autres, oui, mais pas une des vôtres.
Si, ça m'arrive. Je suis même parfois, comme tous les auteurs, pris par une sorte de tout à l'ego, de narcissisme, où je relis un petit paragraphe ou un petit poème, où je me dis « Ah, quand même, c'était pas mal ». C'est rassurant, parce que finalement, au moment où je l'ai écrit, j'étais pas dans cet enthousiasme-là, c'est une sorte d'enthousiasme d'après-coup. Il y a une phrase de Gide que j'aime beaucoup et qui me paraît tout à fait justifiée, qui est « je n'aime pas écrire, j'aime avoir écrit ».
Oui.
Et c'est assez vrai, je pense, pour beaucoup d'auteurs.
Dans votre livre « Toutes les familles heureuses », dans lequel vous décrivez l'absence d'amour qui régna dans la vôtre, vous écrivez « si la vie se passe à combler les gouffres ouverts dans l'enfance, alors je sais pourquoi j'aime tant le rire qui ne pénétrait jamais chez nous que par effraction ». Et je commencerai tout de suite par deux questions dramatiques mais qui me paraissent essentielles, ce qui n'empêchera pas le rire de survenir par la suite, je vous rassure Hervé Le Tellier. La première question c'est celle-ci, le manque d'amour favorise-t-il le fait d'être écrivain ?
Ah, il y a des réponses très diverses. Mauriac à la sienne. Parfois, c'est l'abondance d'amour qui favorise. Ça peut être l'exemple de Gary, qui lui est envahi d'amour, de Cohen, qui est submergé aussi par l'amour maternel. Donc, l'amour maternel peut aussi avoir cet effet de vous porter et d'avoir c'est une sorte de vague, la promesse de l'aube, comme disait Romain Gary, qui parlait en fait d'autre chose, mais cette idée qu'on est accompagné par l'amour, c'est aussi une grande force. Le fait de ne pas l'être, moi, je n'étais pas je manquais pas d'amour. J'étais environné par un amour un peu maladif, un peu exigeant, qui était sous dépendance. Il fallait que pour être aimé. Et ça, c'est pas tout à fait l'amour maternel qui doit être inconditionnel. L'amour sous condition, c'est pas de l'amour. Voilà, je l'ai découvert plus tard en devenant père que c'était pas un amour tout à fait naturel que de devoir subir pour satisfaire. Mais je pense que c'est pas indispensable. Donc il y a différentes motivations pour écrire. Et dans ces motivations, il y a aussi bien le désir d'accomplir une ambition maternelle, comme celle de Gary, à qui sa mère a dit « tu seras écrivain, tu seras diplomate », et qui a fini par être les deux, ou répondre à l'idée qu'on ne sera jamais rien selon votre mère, et que finalement on finit par l'être quand même, malgré tout. Donc il n'y a pas de recette, hélas.
La seconde question, c'est de savoir si on peut s'aimer, bien s'aimer ou se supporter quand on a été mal aimé au début, c'est-à-dire dans les années où on est censé être façonné.
On n'a qu'une heure devant nous.
Oui, mais vous pouvez revenir.
Non, parce que ça, c'est une question qui est lancinante pour tous.
Bien sûr.
Ça ne concerne vraiment pas que les écrivains.
Bien sûr que non.
Je pense que tous les enfants sont mal aimés, parce que les parents font de leur mieux, mais tout le monde aime mal. Et donc, on passe la quasi-totalité de sa vie à essayer de savoir comment il faut aimer, comment est-ce qu'il faut surmonter le fait qu'on peut penser ne pas l'avoir été. Enfin, c'est une histoire sans fin. La vraie question, je pense, c'est moins de savoir si on a été aimé que de savoir si on est capable d'aimer. Ça, c'est la vraie question qu'il faut se poser.
Vous êtes capable d'aimer, Hervé Le Tellier ?
Ah oui, je crois, oui. Ça, je crois que je suis capable. La question, vraiment, elle est là, et même non seulement, je pense qu'il est plus agréable d'aimer que d'être aimé. C'est aussi une question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qu'on voudrait le plus dans la vie ? C'est aimer ou être aimé ? Je pense que la bonne réponse, c'est aimer. Parce qu'après tout, même être aimé sans retour, c'est un sentiment d'être vivant, alors que être aimé, c'est une satisfaction égotique qui n'apporte pas de plaisir, en fait.
Non, mais c'est plus confortable, quand même.
Oui, quand alors le confort, c'est pas forcément la meilleure façon de vivre.
Bon, alors vous allez revenir toute la semaine.
Je suis enfin vivant. Vivant comme je l'aime. Des questions sur tout.
Malik Djoudi, vivant.
Grand Canal. Eva Bester. Sur France Inter.
Hervé Le Tellier, vous trouvez le pathos inélégant. Ne souffrez-vous pas trop de l'air du temps?
Si. On est dans une sorte de dictature du pathos, de dictature même d'une dimension victimaire, enfin de tout ce qui est sa propre souffrance, la souffrance des autres, l'émotion, l'hémisphère de la sensibilité contre l'hémisphère de l'intelligence. Si, je souffre de cette façon dont le monde évolue, se perçoit. Je suis contre l'immédiateté, par exemple. Or, l'immédiateté, c'est forcément le pathos, c'est forcément l'émotion. Oui, je souffre un peu de ça. Et en même temps, il y a moyen de prendre un peu de distance. Il y a plein de choses dont je m'éloigne. Les réseaux sociaux, toute une série de choses comme ça, dont j'essaie de me tenir un peu éloigné. Ce qui me touche le plus, en fait, dans le monde actuel, c'est les bulles, les bulles identitaires, la manière dont le monde s'est finalement refermé en une série de petites bulles qui n'ont plus contact les unes avec les autres, qui chacune obéissent à des biais de confirmation, des gens qui ne se parlent plus, qui ne s'écoutent plus, qui s'insultent. Ça me fatigue un petit peu. Et je pense que c'est aussi lié à une dimension très de repli sur soi et sur ses propres douleurs, ses propres sentiments qui sont liés au pathos. Oui, je fais partie de ça.
Vous allez voir, je vous promets qu'on va parler de votre livre, mais j'y viens doucement et sûrement. Hervé Le Tellier, vous dites que vous êtes un enfant sauvé par les livres, que vous avez été un enfant sauvé par les livres. Au lycée, vous vous êtes lié d'amitié avec votre professeur de philosophie et de lui, vous retenez, je vous cite, ce questionnement de la langue, du sens, des questions philosophiques, mon rapport au vieillissement, mon rapport à mon corps. C'était chez Richard Guettet sur Arte Radio. Pouvez-vous nous parler de ces deux derniers, votre rapport au vieillissement et votre rapport à votre corps?
C'est la même chose en fait. C'est-à-dire que je suis mon corps. Déjà, cette question, je l'ai réglée assez tôt. Je n'ai pas douté une seule seconde que j'étais rien. Enfin, je suis mon corps. Mon cerveau est dans mon corps et donc il fait partie de mon corps. Il n'y a pas de choses extérieures à moi. Je ne crois pas à l'âme. Je crois que tout est électrique, tout est chimique.
Vous êtes matérialiste quand on meurt.
Je suis atrocement matérialiste. Voilà, atrocement matérialiste. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, qui dit matérialisme dit aussi finitude. Et donc, le monde a existé 13 milliards d'années sans moi, et il existera encore 13 milliards d'années sans moi. Donc, le petit moment où j'existe, et le moment unique, c'est un moment dans lequel je ne cesse de vieillir. Je nais, je suis même conçu, et à partir du moment où je suis conçu, je ne cesse de vieillir. Je sors à un moment donné dans le monde libre, au bout de 9 mois, et à partir de là, je vieillis.
Mais parfois, vous faites des interruptions, vous allez au restaurant et...
Même au restaurant, alors je vous informe.
Non.
C'est pas parce que vous allez au restaurant que vous ne vieillissez pas dans le petit moment où vous allez au restaurant.
Bon, écoutez,
on vieillit moins en dormant.
Ah, et bien voilà.
Ben voilà.
Une grande dépression de plusieurs décennies s'offre à moi dans un lit. Merci beaucoup. Hervé Le Tellier, vous avez exercé de nombreux petits boulots. Flasheur à Libération, qu'est-ce que ça veut dire flasheur?
Ah, alors c'est drôle parce que mon traducteur en anglais, à un moment donné, c'est dit que j'étais pas exhibitionniste à Libération, c'était pas possible, parce que flasher en anglais, ça veut dire exhibitionniste. Je rappelle le film de Gainsbourg, Stan the Flasher. Et donc, dans un moment d'imagination, elle a décidé que flasher, ça voulait dire paparazzi. En fait, flasher, c'est un métier qui a disparu. C'était à l'époque où on prenait des photographies, on appliquait une trame sur la photographie, et on obtenait ensuite une simili-gravure par flashage de la photographie plus la trame. Plus la trame était fine, plus la qualité de la photographie était grande, et on flashait avec des UV. Donc j'étais flasheur à Libération, ça veut dire que je prenais des photographies et que je flashais. Et c'était pas très bon pour ma rétine, et je ne le savais pas.
Ah oui, les yeux.
Eh oui, les yeux.
Votre faiblesse.
Ma faiblesse.
Ouais. Vous avez été gardien de nuit en hôpital psychiatrique, vous avez aussi
très peu de temps.
D'accord, mais quand même.
Mais quand même.
Vous l'avez été. Vous avez poussé des morts sur un chariot dans la morgue d'un hôpital. Et justement, puisqu'on parle de la mort depuis le début de cette émission, je voulais savoir, est-ce que vous avez plus ou moins peur de la mort en ayant fréquenté des cadavres?
Oh, j'ai pas fréquenté très longtemps des cadavres et j'avais déjà très peur de la mort. Mais j'avais peur de la mort et de la mienne. En fait, j'avais assez peu peur de la mort des autres. En fait, on n'a pas beaucoup peur de la mort des autres. Ça se fait de la peine quand on les aime. Mais fondamentalement, c'est pas une mort qui nous fait peur.
Ah oui?
La vraie peur, si on doit avoir peur, c'est de l'idée qu'il y a quelque chose après et que ça pourrait être, comme disait Blanche Gardin, dans
Vous avez des sources variées.
Oui, j'ai des sources variées. Ça va de Sartre à Blanche Gardin. Ça se ressemble d'ailleurs.
Oui.
Blanche Gardin raconte dans un de ses sketchs que, mon Dieu, si la vie éternelle existe et qu'elle se réveille et qu'elle dit, oh, ça continue cette merde. Voilà. Apologie de la dépression.
Bien sûr.
J'aime bien cette idée-là. Donc, non, je pense qu'on a peur de la vacuité et qu'on a peur du vide. Et que la peur de la mort, c'est une peur du vide. C'est une peur du rien, en fait. C'est la peur de que tout s'arrête. Mais fondamentalement, la peur de la mort, c'est pas exactement la peur d'autre chose que le vieillissement et des derniers moments.
Une pensée pour tous les vampires. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go? Des Clash. Hervé Le Tellier, est-il vrai que c'est la Ligue communiste révolutionnaire dont vous faisiez partie qui a réussi à faire venir
Clash pour
la première fois en France, mais que vous avez assuré la sécurité du concert? Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
J'étais au premier rang du concert avec un casque et des boules quies parce que ça criait très fort et j'étais juste devant un haut-parleur. Et c'est vrai aussi, je l'ai dit à Richard Gatet dans une interview, que j'ai mangé un sandwich, je ne sais plus à quoi était le sandwich, avec Joe Strummer.
Ah oui.
Ah, c'est la gloire absolue.
Oui, ça c'est vrai. Mais la LCR, ça a été votre seconde famille choisie cette fois-ci.
Oui, ça a été un. Je ne sais pas si c'était le mot de famille qui convenait, parce qu'il y avait beaucoup de tendances, beaucoup d'affrontements, beaucoup de débats, plus que dans une famille finalement. Mais j'ai été toujours effectivement attiré par des fratries. Ça c'est vrai. Et que c'était un lieu possible. Pour trouver une forme de fraternité. Dans ce qui est passé sur le fronton des églises, des mairies, liberté, égalité, fraternité, c'est le mot fraternité qui m'intéresse le plus.
Et dans l'Oulipo, c'est une fraternité, l'Oulipo?
L'Oulipo, c'est un groupe de travail. Un groupe de travail où on devient forcément ami avec les gens avec qui on travaille, mais c'est avant tout un groupe de travail. Un groupe où on confronte, un groupe où on raconte, un groupe où on apprend aussi, un groupe où on apprend même à lire d'une certaine manière les livres des autres. C'est un groupe de travail.
Comment ça, on apprend à lire?
Par exemple, on apprend ce que c'est qu'un sous-texte sous un texte. Je prends un exemple, La disparition de Pérec, qui est un livre qui est connu pour être écrit sans la lettre E. On apprend que souvent, sous un texte, il y a un autre texte et que la disparition de Pérec, en fait, on cache un deuxième et on apprend à lire ce deuxième texte, qui est le texte non seulement qui contient des E, mais peut-être qui contient plus encore.
Mais c'est-à-dire que ça peut être à la fois une vision poétique ou n'importe quoi, diront certains.
Non. Le fait d'écrire sous contrainte, en fait, nous amène ailleurs, par définition. Là, je reviens au principe de l'Oulipo, groupe de travail. Cette idée de travailler... Donc, avec une contrainte sur un texte, ça veut dire, par exemple, qu'on peut très bien s'imposer d'écrire des alexandrins, un système de 2-4-1 et 2-3. Et lorsqu'on se met à écrire un sonnet, on n'écrit plus la même chose que si on était dans la prose. Donc, cette idée d'aller ailleurs par le biais de la contrainte, c'est une idée extrêmement forte qui amène à la fois une sorte de gang, une gang formelle, mais aussi une forme de poésie très, très, très formelle qui moi, m'intéresse beaucoup.
Ah mais ça c'est très intéressant, mais j'étais plus étonnée par le fait qu'il y ait un deuxième texte qui existe sous le premier texte.
Toujours, mais sous un sonnet, il y a un texte en prose.
Mais est-ce que l'auteur le sait?
Ah oui, en général, quand il compose quelque chose, il sait qu'il ne peut pas aller là où il a exactement envie d'aller.
Mais où sont les E alors dans la disparition de Pérec?
Où sont passés tous
oui,
ces
E? Oui, où est-ce qu'on peut les trouver?
Dans la disparition de Pérec, à un moment donné, il est amené à faire une recette de cuisine. Cette recette de cuisine, c'est une recette de glace. Et c'est un sorbet au café. Mais comme il ne peut pas faire le café, il fait un parfait au chocolat. Un parfait au chocolat qui, lui, obéit à la contrainte. Mais qui, en fait, est évidemment le parfait au café classique.
Je suis stone, Hervé Le Tellier. Je cherche toujours les E. Alors, j'ai appris grâce à vous qu'il ne fallait pas demander à entrer à l'Oulipo.
Non.
On ne peut pas non plus en démissionner. Puis quand on meurt, on est excusé pour cause de décès.
Voilà. On ne quitte jamais l'Oulipo. Donc, nous sommes 41, dont un bon nombre, maintenant la majorité, qui sont excusés pour cause de décès. Ça va de Raymond Queneau à Marcel Duchamp, passant par François Karadec et par d'autres.
Vous vous retrouvez toutes les semaines ?
Avec les morts, oui. Tous les mois.
Tous les mois. Et avec les vivants ?
C'est la semaine prochaine.
D'accord.
Avec les vivants, plus souvent que tous les mois, parce que souvent nous avons des activités connexes, où on est ensemble, pour les co-commissions, ce qu'on appelle les co-commissions, qui sont des moments où, sur un projet donné, nous travaillons ensemble. Ça arrive de temps en temps.
Vampire Weekend, Capricorne.
Grand Canal. Eva Bester. Sur France Inter.
Hervé Le Tellier, vous venez de publier chez Gallimard Le Nom sur le mur. Vous portez le nom de famille de votre ancien beau-père. On ne connaît pas votre nom de naissance, qui est parfaitement respectable. Je ne vous le demanderai pas. Et comme il s'agit de nom dans votre dernier livre, une question. Aimeriez-vous ou craindriez-vous que quelqu'un, après votre mort, fasse une enquête sur vous, comme vous, sur l'ancien résistant André Chay ?
Je serais mort.
Oui, allez, comme vous êtes matérialiste.
Bah oui.
Oui, pas de problème.
Bah oui. Non, je pense que j'ai pas grand-chose à cacher. Je vois pas très bien ce qu'on pourrait dire de pire. Que ce qu'on dit déjà de moi, donc il n'y a pas de problème.
Vous aimez brouiller les identités, comme par exemple l'écrivain portugais que vous seul connaissez, peut-être parce qu'il n'existe pas. Comment est-ce qu'on prononce ?
Jaime Montestrela.
Montestrela, et dont vous avez traduit, sans parler portugais, les comptes liquides.
Oui, c'est d'autant plus méritoire.
Bien sûr.
Méritoire.
Avez-vous eu des nouvelles récentes de lui ?
Je vais les publier de nouveau sous une forme très 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 augmentée en octobre. Donc, ça sera 365 plus 1 par jour, compte liquide.
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? Ami, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne ? Oh, et
partisans, ouvriers et paysans, à vos armes. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes.
1943, le chant des partisans écrit par Joseph Kessel et Maurice Druon, ici interprété par Germaine Sablon. Le nom sur le mur, c'est le nom d'un personnage réel, le maquisard André Chay, qui a vécu dans un village de la Drôme provençale où vous vivez, Hervé Le Tellier, une partie de l'année. Un homme à la vie brève et un sujet sur lequel vous ne saviez rien. Est-ce que vous aviez déjà en tête d'écrire sur lui en vous documentant ou vous attendiez de voir si vos trouvailles vous intéresseraient suffisamment?
C'est-à-dire la genèse d'un livre, c'est toujours un peu mystérieux. J'avais commencé à me documenter, c'est vrai, avec cette idée que on arrivait forcément à 2024 et donc au centenaire de sa naissance. Et j'ai eu la chance l'année dernière d'obtenir une série de documents qui m'ont été donnés un peu par hasard, par miracle, par une association d'anciens combattants, de mémorial, disons, de la résistance, qui avait obtenu de la famille du neveu d'André Chaix, en fait, une petite boîte dans lequel il y avait le fume-cigarette, la carte d'identité, la carte d'apprenti céramiste, des photographies, des tracts, des lettres. Et quand j'ai eu tout ça dans les mains, je me suis dit que c'était pas possible de ne pas écrire, parce que j'avais tout ce qu'il fallait pour raconter une vie. Et parfois, les choses vous sont données, c'est-à-dire, et vous vous dites que c'est un petit miracle auquel il serait inélégant de ne pas répondre parce que c'est un cadeau de la vie. Et j'ai eu envie de raconter cette histoire assez vite. Et j'ai eu une deuxième chance, c'est que la fille de la fiancée d'André Chaix était encore non seulement vivante, mais pas très loin, que j'ai pu la contacter, la rencontrer, et qu'elle m'a donné une deuxième enveloppe qui contenait également des photographies qu'elle avait conservées, que sa mère lui avait confiées, et qui m'ont donné une deuxième série d'images, différentes encore des premières. Et tout ceci constituait une vie, en fait, avec ce qu'il y avait écrit, parfois, à l'arrière des photographies, qui étaient des mots d'amour, des mots écrits par Simone, qui était la fiancée, qui disait une phrase incroyable, qui est par exemple « Regardez André, vous comprendrez ».
Oui, c'est magnifique. Oui. Est-ce que vous, délibérément, vous choisissez, Hervé Le Tellier, de ne pas prendre le parti de dire quand non. Cette phrase a pu avoir été écrite, mais peut-être avant sa mort ou après?
Je ne sais pas.
Oui.
Donc, comme je ne sais pas, j'invente pas. Et donc, je donne plusieurs hypothèses. Il y en a une que je trouve plus belle que les autres et qui est la plus plausible, qui est quelque chose qu'elle écrit pour elle quand elle est adolescente. Et elle dit « Regardez comme il est beau, regardez comme je l'aime ». C'est très bien.
Vous dites André Chaix, moi depuis tout à l'heure je dis André Chaix, c'était un parti pris puisque ça s'écrit C-H-A-I-X, et vous-même vous interrogez sur la prononciation dans le livre, vous dites...
J'ai demandé.
Vous avez demandé.
J'ai demandé comment on prononçait et on m'a dit Chaix.
D'accord, parce que dans le livre vous êtes dans un entre-deux.
Oui, il y a deux façons de prononcer Chaix, une où on prononce beaucoup le X, une où on ne prononce pas du tout, et ça se prononce un petit peu.
D'accord. Que savez-vous de cet homme? Comment vous le décririez si c'était un ami à vous et que vous deviez parler de lui?
Il y a une description physique, déjà. C'est celle d'un jeune homme assez athlétique, qu'on peut voir sur ses photographies, debout sur un cheval, debout sur un arbre, en équilibre. Donc quelqu'un qui, de toute évidence, est un homme sportif. Je pense qu'il était naturellement sportif. Et qui a aussi une gueule. Quand on regarde son visage, j'étais frappé par le fait que c'était un visage à la fois adolescent et aussi très mûr, avec un regard incroyablement clair, incroyablement franc. Ce qui fait que lorsque j'ai commencé à travailler sur lui et que je ne connaissais pas du tout son visage, ça m'a enthousiasmé d'ouvrir cette petite boîte et de voir à quoi il ressemblait. J'étais étonné de découvrir ce jeune homme. Ensuite, psychologiquement, c'est difficile de savoir parce que on ne se base que sur ce qu'on lit, ce qu'on découvre de lui. Je trouve qu'il a une sorte d'allant, c'est-à-dire d'énergie visible à la fois dans ses lettres qu'il écrit à ses parents, dans ce qu'il écrit à sa compagne, dans ce qu'il écrit à ses amis, qui dit aussi une sorte d'enthousiasme. Enthousiasme, l'origine du mot que je trouve magnifique, c'est Dieu en soi.
Oui, mais ça, vous n'y croyez pas puisque vous êtes matérialiste.
Non, mais c'est pas grave. parce que
vous êtes enthousiaste.
Oui, je trouve que le fait que c'est d'avoir une énergie en soi, une énergie vitale en lui, et ça il l'avait. C'est clair qu'il y a cet enthousiasme. Et on peut avoir un enthousiasme qui va dans des directions plus ou moins suspectes, mais lui, il a un enthousiasme qui va vers la vie, qui va vers l'amour de sa fiancée, qui va vers la liberté, qui va vers le combat pour la libération de la France, avec une conception de la France qui est une conception qui, sur laquelle je ne sais pas grand-chose, en fait, que je ne vois à travers des tracts, à travers des lettres, mais c'est tout ce que je sais. Et par exemple, je ne connais pas tout à fait ses opinions politiques, qui n'apparaissent pas, sauf qu'il est dans les FTP, mais c'est pas la preuve qu'il est communiste, il y a de tout chez les FTP.
Oui, alors justement, à un moment, vous reproduisez, Hervé Le Tellier, un tract du Comité National des Écrivains auquel appartenaient Mauriac, Éluard et Sartre, et on apprend que le Front National, franc-tireur et partisan, une des deux grandes organisations de la Résistance, n'est pas du tout le Front National d'aujourd'hui.
Non.
Et que c'est très compliqué à l'intérieur.
Oui, c'est très compliqué. C'est pour ça que je l'ai repris intégralement, parce que ça m'a stupéfait qu'il avait ça, sur lui. Il avait en permanence dans son portefeuille la liste de la vingtaine d'associations de la Résistance qui sont toutes, qui vont de l'armée secrète, en passant par le MUR, en passant par le Front National, etc. Et on voit bien la diversité, les FFI, on explique ce que c'est que les FFI, qui sont une composante qui rassemble l'armée secrète, les FFTP, etc. Donc, il y a cette incroyable complexité mosaïque de la Résistance que sans doute il découvre et qu'il a besoin d'avoir en permanence sur lui pour savoir qui appartient à quoi. Et ça, j'ai trouvé que c'était tout à fait révélateur de la diversité de cette résistance française qui commence à se construire à partir de 1940, qui se construit à partir de briques, à partir de petits groupes qui sont indépendants les uns des autres, qui vont finalement se contacter, rentrer en fusion ou pas, avec des divergences. Mais ça fait quand même comme dirait l'autre, tout ceci fait d'excellents Français, malgré tout. Alors ça va de la résistance presque à la Mauriac, justement, une résistance plutôt de droite, à une résistance plutôt d'extrême-gauche, parfois anarchiste même, qui néanmoins vont tous collaborer, le mot est mal employé, mais collaborer pour résister. Et j'ai trouvé que c'était très touchant qu'il ait ça. Il y avait un deuxième tract qu'il avait dans sa poche, que je trouvais aussi très intéressant, qui était un tract des FTP au moment où le débarquement a lieu. Et ce tract raconte autre chose, c'est-à-dire la manière dont les FTP, qui étaient un groupe de résistants, voulaient montrer à quel point ils étaient simultanément une armée. Et ce tract dit « Camarades, vos supérieurs vous serreront toujours la main, mais vous devez les saluer. » Comme si à ce moment-là précis, les deux questions étaient antagonistes.
Le mot « aimer » n'a de sens pour moi que s'il s'applique au patron. Je tiens à lui plus qu'à tout. Plus qu'à tout, mais moins qu'à la vie. Luc Jardy disparaissant, je voudrais tout de même vivre. Et je vais mourir. Et je n'ai pas peur. C'est impossible de ne pas avoir peur quand on va mourir. C'est parce que je suis trop borné. Trop animal pour y croire. Et si je n'y crois pas jusqu'au dernier instant, jusqu'à la plus fine limite, je ne mourrai jamais. Quelle découverte. Et comme elle plairait au patron. Il faut que je l'approfondisse. Il faut...
Abteilung ! Allez !
Un des chefs-d'œuvre de Jean-Pierre Melville, L'armée des ombres, on entend la pensée de Philippe Gerbier, résistant, interprété par Lino Ventura. Il marche le long du couloir de la prison qui conduit aux batteries de mitrailleuses. Vous l'évoquez dans votre livre, Hervé Le Tellier, et vous évoquez aussi ce désir d'appartenir à plus grand que nous, qui conduit les hommes au meilleur et au pire. Est-ce que vous l'avez eu, ce désir ?
Oui, évidemment. Je pense que même je l'ai encore. Hein. C'est pas possible de s'en débarrasser. C'est même bien de ne pas s'en débarrasser. Hein.
C'est la transcendance ?
La transcendance, le collectif. Je suis assez favorable au collectif. Ça fait deux fois qu'on parle de Kessel, en fait, parce que c'est le chant des partisans, mais c'est aussi un livre de Kessel, L'armée des ombres. Donc cette idée du collectif, c'est il n'y a pas de salut individuel. On va dire qu'on prenne les grands défis auxquels sont confrontés aujourd'hui l'humanité. C'est-à-dire le réchauffement climatique, il n'y aura pas de salut individuel. Je sais que certaines personnes sont en train d'ambitionner de conquérir la Nouvelle-Zélande et d'y acheter des hectares et des hectares pour essayer de se sauver individuellement, mais ça ne marchera pas comme ça. Donc c'est, tous les défis qui sont des défis humains sont des défis forcément collectifs et qui nécessitent donc de l'enthousiasme une fois de plus, qui nécessitent de la cohésion et qui nécessitent aussi de l'universalité, c'est-à-dire que on ne peut pas faire contre les autres, même si parfois il va falloir agir contre, puisque forcément toutes les luttes, ce sont des luttes humaines, et donc il y a forcément une très grande majorité qui doit lutter contre une minorité. Donc oui, je suis toujours animé par cette idée du collectif, c'est vrai. Ça n'a pas disparu.
Yes, I remember the wave. It was one of the most frightening classroom experiences I ever had. It all started when we were studying Nazi Germany.
Hervé Le Tellier, vous rapportez dans votre livre des expériences inquiétantes sur la nature humaine, notamment celle de 67 en Californie, dans laquelle un professeur a recréé l'Allemagne nazie à l'échelle de sa classe sur une semaine, ce qui est relaté dans le film The Wave d'Alexander Grassoff, film de 1981 dont on vient d'entendre un extrait. Et je vous laisse en dire un peu plus et puis dériver peut-être sur l'expérience de Milgram ou Brain Games.
Oui, alors c'est amusant parce que j'ai pu contacter un des élèves qui a participé à cette expérience et que je cite d'ailleurs dans le livre. Je suis allé sur le site qui est un site américain qui raconte une fois de plus cette expérience incroyable qui est non seulement dans un film mais aussi dans un documentaire, dans une série Netflix où on raconte ces jeunes gens qui dans une classe de seconde vont tous finalement adhérer à une idéologie qui n'est pas d'ailleurs définie par le prof mais qui en tout cas est relativement totalitaire, relativement violente, qui très vite devient excluante. Et donc c'est quelque chose qui est dans la nature humaine. Très rapidement, ces jeunes gens vont découvrir qu'ils ont spontanément créé une sorte de phalange extrêmement réactionnaire et violente contre les autres. Et à la fin de l'expérience, le professeur, qui est inquiet de voir ce qui se déroule devant lui, finit par leur projeter, une fois qu'il les a réunis dans le gymnase, des films qui montrent la violence du nazisme et où ils découvrent que finalement le salut nazi n'est pas si éloigné du salut que eux-mêmes avaient entre eux. Donc il y a cette tendance assez naturelle de l'homme vers ce qu'on peut appeler la grégarité violente. C'est sans doute grâce à cette grégarité violente que nous avons pu survivre au néolithique. C'est sûr que ça a dû être une sorte de force de cohésion tribale qui nous a sauvés. Aujourd'hui, dans une société moderne, développée, technique, ça peut poser des problèmes. Et je suis parti sur deux autres expériences qui m'intéressaient, celle de Milgram, qui est connue, où on peut voir que, soumis à une autorité, beaucoup d'entre nous peuvent être amenés à aller jusqu'à la torture dans un cycle expérimentateur sujet qui est d'expérience, où on se souvient que dans un film même très ancien comme I comme Icare avec mon temps
de Verneuil.
On voit que un sujet est capable de torturer un autre si à côté de lui il y a une autorité pour lui dire qu'il a le droit. Et la dernière expérience que j'ai découverte, c'est Brain Games, qui est une petite émission qui continue encore d'ailleurs sur une chaîne américaine qui est scientifique américaine, et dans laquelle on voit une dame qui s'installe dans une salle d'attente et elle découvre qu'autour d'elle, des gens qui sont en fait des acteurs. Dès qu'une sonnerie retentit, se lève et dès que la sonnerie s'arrête, ils se rasseyent. Et elle va se mettre elle aussi à suivre cette injonction dont elle ignore parfaitement la logique, commencer à se lever, à s'asseoir et l'enseigner à de nouveau qui arrive sans pour autant pouvoir expliquer pourquoi. Donc ça, c'est une expérience de conformité sociale terrifiante qui dit aussi beaucoup de nous, du fait qu'on ne veut pas aller au conflit, qu'on ne veut pas aller à l'affrontement, qu'on ne veut pas dire « je ne suis pas d'accord, pourquoi vous faites-vous ça ?» Non, on se conforme. Et tout ceci mis ensemble, la capacité à aller vers la violence si quelqu'un d'autre est derrière nous pour nous soutenir, la capacité à ce que la violence d'un groupe soit supérieure à la violence de chacun des individus, plus la conformité sociale, alors ça donne c'est détonnant et ça peut s'appeler le nazisme.
C'est pour ça que le sujet de votre livre est hélas atemporel.
Thank you.
Qu'est-ce qu'on entend, Hervé Le Tellier ?
Denis Cugnot, un disque qui s'appelle Confidentiel Klezmer.
Et le titre, c'est Papier ist doch weiß.
C'est ça.
Pourquoi l'avez-vous choisi ?
Alors, d'abord parce que c'est de la musique klezmer, que je suis un fan absolu de la musique klezmer, et que c'est une adaptation au piano, ce qui est quand même une petite provocation, parce que la musique klezmer, c'est quand même une musique qui est faite par des gens qui doivent partir en vitesse au moment du pogrom avec une clarinette, avec un violon, et qu'on n'imagine pas avoir un piano à travailler derrière soi. Donc l'adaptation qu'a fait Denis Cugnot sinon l'adaptation, mais sur les créations, je trouve ça très joli, très beau.
Vous avez choisi une chose à faire découvrir aux auditeurs aussi, c'est de la musique, et bon, on en parle juste après. Ryuki Sakamoto, mort en mars 2023, musicien, compositeur, producteur de musique et acteur japonais, qui a par exemple signé les musiques des films Furio ou Le Dernier Empereur. Et là, c'est de la musique médiévale qu'on entend.
Mais oui, c'est un disque entier de Ryuki Sakamoto, qui est un des plus grands compositeurs, à mon avis, des 20 dernières années, 30 dernières années, qui est mort il y a un an. Et ça, c'est une démonstration de savoir-faire, parce que tout le disque est composé d'imitations et de pastiches de musique médiévale, et c'est magnifique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se douter que ça n'est pas une musique du XIVe siècle, pré-Monteverdi, le disque en est plein.
Je vous ai demandé aussi de choisir une œuvre, et puis vous avez choisi L'Option légère de Victor Pouchet,
oui,
de la poésie.
Exactement. J'ai choisi cette œuvre-là parce que la poésie, c'est un peu le parent pauvre de la littérature. C'est-à-dire que on a, au niveau éditorial, hein, pas au niveau, évidemment, création, c'est magnifique. Mais au niveau éditorial, on hésite à acheter un livre de poésie. Or, très souvent, dans le travail poétique, c'est un travail d'orfèvre, c'est un travail de broderie, c'est un travail qui est toujours à la limite, sur la crête, entre deux choses qui sont le lyrisme, un peu ridicule, justement, et l'emphase. Et le travail que fait Victor Pouchet, qui est à mon avis un des plus grands poètes contemporains, tout jeune, hein, c'est un travail qui est remarquablement juste. C'est-à-dire qu'avec des mots extrêmement simples, et le choix d'un rythme sur l'option légère qui est l'octosyllabe, il compose une série de poésies qui sont tous des poèmes d'amour, extrêmement justes, extrêmement précis, et dont tous les mots jouent ce rôle d'extrême légèreté, ce qui justifie son titre, L'Option légère, qui est un hommage à Perros.
J'avais fait le choix de n'employer jamais le moi, de ne représenter jamais ma personne, mes mémoires, mes sentiments, mon commentaire. Je dois faire un petit pas en arrière et dire que oui, mes tout premières tentatives, et tout de suite après la libération, avaient été d'écrire des récits en première personne, des mémoires d'expériences vécues, avec plus ou moins de transfiguration littéraire. Mais c'était toujours des moments d'angoisse, des moments de détresse que j'ai choisissais de représenter.
Italo Calvino, en 1976, au micro de Jean Thibaudot sur France Culture. Hervé Le Tellier, c'est l'un de vos modèles en écriture. C'est un ancien résistant aussi qui figure dans votre livre Le Nom sur le Mur. Et j'ai lu que le livre qui vous a le plus marqué adolescent, c'est son Marco Valdo, que vous offrez à tous les adolescents qui se posent des questions.
Oui.
Et pourquoi ?
Parce que Marco Valdo, qui est sous-titré Les Saisons en ville, c'est un livre constitué d'une série de nouvelles avec un personnage unique qui est Marco Valdo, qui va toutes les traverser, qui est un modèle de fluidité littéraire. Quand on s'interroge sur ce que c'est que l'écriture, on peut lire Italo Calvino. Pavese disait de Italo Calvino que c'était un écureuil de la plume, ce qui est une belle formule. Et c'est vrai que la manière dont écrit Calvino, c'est une sorte de démonstration de savoir-faire, et en même temps, on ne voit pas que c'est du savoir-faire. Pour un écrivain, c'est une sorte d'écrivain pour écrivain, et pour un lecteur, c'est un écrivain pour lecteur. Donc, que demander de plus ? Et en plus, c'est un philosophe, c'est-à-dire que chacune de ses nouvelles raconte une histoire qui parle du monde, qui parle de notre rapport à la nuit, de notre rapport aux plantes, de notre rapport aux vagues. Et Marco Valdo parle de tout ça. Il parle à la fois de ce qui nous relie au collectif, donc la ville, toutes les saisons en ville, et de ce qui fait que nous sommes encore un peu des paysans et des hommes sauvages, qui est les saisons. Et donc ce livre est absolument magnifique.
Je crois que vous avez un projet, Hervé Le Tellier, qui est d'écrire sur Martin Jarry.
Avec Martin Jarry.
Avec lui,
Martin
alors, Jarry. Parce que je sais qu'il fait des très belles illustrations.
Oui, on travaille ensemble. On a un projet qui sera sans doute publié avant la fin de l'année.
En octobre, normalement, chez Gallimard.
En octobre, chez Gallimard aussi, oui. Qui est un livre où j'ai travaillé sur des illustrations de Martin, qui est un peintre formidable, très imaginatif, et où j'essaye de regarder ce qu'il y a derrière chacun des dessins,
derrière,
pour raconter
toujours
une histoire qui soit cohérente avec l'idée collective qu'on a eue, qui est une série d'architectes fous.
C'est drôle, parce que ce qui revient toujours, c'est regarder derrière et le collectif.
Oui.
Dans « Je compte jusqu'à 100 et plus si affinité », vous faites un exercice de style à la Raymond Queneau où vous décrivez la Joconde du point de vue d'une centaine de personnes différentes. Est-ce que vous pourriez vous décrire, vous, Hervé Le Tellier, de deux ou trois manières différentes ?
Difficilement.
Difficilement.
Je pense que c'est... J'espère que quelqu'un fera un jour le point de vue d'Hervé Le Tellier, mais parce que j'ai fait le point de vue de 007, qui est facile, mais qui est « My name is Conde, Joconde ». Mais en dehors de ça, là, je ne sais pas en fait qui je suis, donc c'est très difficile de me pasticher ou de faire mon propre portrait.
Bon, alors pour rendre hommage à l'anomalie sans trop en dire, que diriez-vous au Hervé Le Tellier de juillet prochain ?
Ça va ?
Qu'aimeriez-vous qu'il réponde ?
Très bien.
En écrivant ce livre, Le nom sur le mur, vous dites que vous avez pu penser à André Chaix. Vivant et non mort, que voudriez-vous lui dire s'il était possible de lui parler ?
Tu as gagné, d'abord, parce que c'est pas évident. Il est mort avant la libération de Paris, donc il est mort sans savoir que la guerre allait être gagnée. Donc on a gagné, et il faut continuer à se battre pour que tu aies gagné. Parce que c'est un combat de tous les jours, la lutte pour la survie de l'espèce humaine. Et il ne faut pas oublier que le combat nazi était quand même un combat d'extermination. Je ne pense pas qu'il avait conscience de la dimension exterminatrice des nazis. Mais aujourd'hui, qu'on sait que c'était vraiment ça, il faut lui rappeler que ce combat reste encore d'actualité.
Merci beaucoup, Hervé Le Tellier.
Merci à vous.
Je rappelle que votre ouvrage « Le nom sur le mur » est paru le 18 avril chez Gallimard et vous serez en dédicace ce jeudi à la librairie Sceaux et Gambade à Dieu le Fit, dans la région donc. Vous serez à la Maison de la Poésie le 2 mai à 19h. Vous signez également un texte dans le dernier numéro de la NRF, « Le dialogue de l'écrit à l'écran ». Et en octobre prochain, normalement, paraîtra votre livre sur les peintures, enfin, avec les illustrations et les peintures de Martin Jarry chez Gallimard. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas et Louise Lemoine, à la programmation musicale Juliette L'Orphelin, à la technique Philippe Duclos. Et dans un instant, vous retrouverez Mishka Assayas pour son Very Good Trip.